Merci pour d'être là déjà. C'est déjà pas rien, parce que vu le nombre que nous sommes, c'est plutôt bien que vous soyez là. Je ne vais pas faire la même conférence que le père Clément tout à l'heure. Peut-être que certains ont eu le temps d'aller aux deux, je ne sais pas. Si c'est le cas, vous pourrez comparer. Si ce n'est pas le cas, le projet était de faire... De traiter aujourd'hui, pendant cette période de l'Avent, la question du salut. Alors, sur le site de la paroisse, il était « Comment vivre et transmettre la joie de Noël ?» Moi, j'ai ajouté mon propre titre, hein, « Dans la joie, annoncer le salut ». Le thème fondamental, c'est celui de la joie. Et donc, pendant le temps qui nous est imparti... Nous allons parcourir, enfin je vais, c'est un parcours un peu personnel que je vous propose, mais quand même, hein, ce qui se veut quand même être un enseignement à partir du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église, et puis aussi à partir évidemment de l'Écriture, et puis de tel ou tel théologien qui pourra nous aider à entrer dans la perspective du salut. Je vais commencer par, en introduction, dire un peu les motifs de l'annonce du salut. C'est vrai que la question du salut n'est pas spontanément quelque chose que nous avons dans notre tête comme quelque chose de tout à fait positif, au sens où d'abord il faut annoncer, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que on est en train d'utiliser un mot qui s'appelle le salut. Qui peut évoquer, alors pour certains, ça dépend un peu des générations, parce qu'il a été abordé de manière différente suivant les générations, en fonction des âges et des époques. Il est un peu plus apprécié aujourd'hui, il questionne en tout cas, mais il est vrai que pour d'autres, il est synonyme d'autres choses, de choses plus négatives. On a en tête peut-être voilà, ce qu'on disait, le salut c'est... une opposition à autre chose, c'est-à-dire la damnation éternelle, etc. Et donc on a du mal à, peut-être, l'idée ce soir aussi c'est de réévangéliser notre façon de considérer le salut, de concevoir le salut, puisque nous allons voir qu'il est au centre de notre vie chrétienne et de notre foi, et finalement qu'il nous incombe à nous de l'annoncer. Je vous ai mis en introduction et en citation un peu liminaire, un passage de Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI, qui est un peu la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle évangélisation, qui est un élan qui a été voulu compléter par Jean-Paul II, mais qui est un peu dont Paul VI est surtout à l'origine, et c'est la première fois qu'on avait un texte du pape qui ne parlait que de l'annonce de l'évangile. Voilà. Et dans le paragraphe 1, il dit « L'effort pour annoncer l'Évangile aux hommes de notre temps, exalté par l'espérance, mais en même temps travaillé souvent par la peur et l'angoisse, est sans nul doute un service rendu à la communauté des chrétiens, mais aussi à toute l'humanité. C'est pourquoi ce devoir nous paraît encore plus noble et nécessaire lorsqu'il s'agit d'encourager nos frères dans la mission d'évangélisation, pour que, en ces temps d'incertitude et de désarroi, ils s'accomplissent avec toujours plus d'amour, de zèle et de joie. » Voilà. Alors ici, on a beaucoup de choses qui sont posées par Paul VI. D'abord, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est un service rendu, hein, que l'évangélisation est un service rendu à la communauté des chrétiens, mais aussi à toute l'humanité. Et que la question du salut, en fait, elle n'est pas simplement... si on la voit comme quelque chose qui est uniquement pour l'extérieur de l'Église et pas pour l'intérieur, alors on se trompe. Voilà. Puisque ce que veut faire à travers l'Église, puisque ce qu'il tient à faire à travers elle, c'est bien unifier le genre humain et pas créer un petit groupuscule dont on ne sait pas trop ce qu'il deviendrait à la fin des temps. Et donc, forcément, la question du salut qui caractérise la chose la plus ultime que Dieu veut nous donner, elle a du sens à l'intérieur de l'Église, mais elle a aussi du sens, évidemment, pour toute l'humanité. Le Christ s'est voulu serviteur de l'homme, de tout l'homme, le rédempteur de tout l'homme, disait Jean-Paul II. Et donc, évangéliser, annoncer l'Évangile, c'est, Paul VI le dit, et le constat est toujours valable et toujours actuel, hein, les hommes de ce temps sont exaltés par aussi l'espérance, mais en même temps travaillés souvent par la peur et l'angoisse. Alors l'espérance, peut-être moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce service qui est rendu, qui doit être rendu, de leur annoncer le Christ, parce que c'est ce pourquoi il est venu. Et en même temps, c'est un service rendu à la communauté des chrétiens. On va voir comment, mais parce que ça permet à chacun d'accomplir son baptême. Hein. La confirmation, qui est l'âge adulte du baptême, en réalité, elle caractérise aussi la capacité pour quelqu'un d'annoncer le Christ. En fait, c'est la pleine stature du chrétien qu'on atteint lorsqu'on est confirmé. Et le charisme qu'on reçoit quand on est confirmé, c'est bien l'annonce. Et donc, Paul VI veut nous encourager à évangéliser, et les papes ensuite, après lui, ont continué à faire cela, Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. Évidemment, le pape François. Dans l'Évangile, en ce temps de l'Avent, peut-être qu'on peut se remettre dans la perspective de l'évangélisation à partir de ce que nous préparons à célébrer. L'annonce hein, qui est faite aux bergers, qui étaient ces hommes qui étaient issus du peuple d'Israël, mais qui étaient des petits, voilà, qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'instructions. Et voilà ces anges hein, les anges qui viennent leur annoncer ce qu'il faut faire, aller là où se trouve l'étoile, ils leur décrivent tout comme il faut. Et puis soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait le Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Le motif d'annonce du salut, c'est qu'on comprend que c'est un service à partir du moment où c'est une volonté de Dieu. C'est un service en tant que Dieu nous le demande et en tant que cela contribue au bonheur de l'homme. Le fondement même, c'est la révélation, ce qui est au motif, au tout départ de ce qui nous fait évangéliser, c'est parce que nous avons reçu cette première annonce, cette révélation de l'amour de Dieu, et que nous avons le désir, nous, personnellement, non pas de nous l'approprier, mais de le donner aux autres. Et cet appel, ce chant, ce cantique des anges aux bergers, bien, il a quelque chose de cet appel universel, hein, ce don universel, cette proclamation universelle de la paix que Dieu vient donner à tous, en manifestant à tous aussi qu'il aime, qu'il les aime. C'est assez remarquable parce qu'il n'y a pas tellement d'autres endroits dans l'Évangile où on dit que Dieu aime tous les hommes. Ça peut être dans des commentaires, des discours de Paul dans les Actes des Apôtres, mais là on est quand même au tout début de l'Évangile et on nous dit que Dieu aime les hommes, voilà, tous. Donc il y a quelque chose tout part en réalité de cette annonce qui a été faite et que nous avons reçue nous-mêmes. Et donc on sent bien qu'il y a une universalité du salut qui ne s'arrête pas, qui ne peut pas s'arrêter à quoi que ce soit, et d'ailleurs qui n'a pas de motif, il n'y a aucun motif qui pourrait faire que je n'annoncerais pas l'évangile à une personne ou à une autre. Rien ne peut arrêter la marche de l'évangile parce que, encore une fois, c'est le projet divin qui se manifeste. Voilà, tel qu'on le voit, c'est Dieu qui veut ça. Alors, peut-être qu'avec les mots du pape François, on va pouvoir voir aussi d'autres choses. C'est une joie, donc, aujourd'hui, on le dit, le pape le dit, que finalement, il faut communiquer cette joie. Hein. C'était sa première exhortation, son premier texte un peu, qui avait valeur un peu symbolique d'introduction et peut-être de table des matières à l'ensemble de son pontificat. Transmettre la joie de l'évangile, c'est-à-dire réévangéliser aussi, finalement, notre manière d'évangéliser et de considérer le message, message du Christ, notre rapport au Christ même. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, peut-être que ce n'est pas nouveau. Hein. On entend beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, peut-être d'une certaine génération, qui disent « oui, il faut de la joie dans l'Église, etc. etc. » Oui, c'est très bien. Mais il faut le faire avec compétence aussi. Il faut le faire avec détermination, compétence, et puis aussi pas sans ignorer non plus nos propres difficultés à assumer, à vivre pleinement de cette joie. Pape François dit « Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son œuvre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare à la recherche malade et de plaisir superficiel de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire du bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Voilà. On sent que on quitte la perspective, vous voyez, d'un salut qui serait finalement offert depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, comme si à l'intérieur on possédait tout, mais au contraire d'un salut qui est annoncé à tous. Et finalement, on sent aussi que si on veut être capable d'annoncer ça, il faut aussi faire nôtre un peu ce constat sur nous-mêmes, qu'il y a une forme d'angoisse, de difficulté personnelle, qu'on est nous aussi plongés dans une société de consommation, qu'on n'est pas tellement différent des autres au fond. Voilà. Sur ce point-là, en tout cas. Voilà. Qu'il y a des menaces extérieures, personnelles, à la vie intérieure de Dieu qui ne souhaite qu'une seule chose, faire sa demeure en nous. Hein. Que l'enthousiasme, il peut être grévé aussi si on ne fait pas attention à vivre de l'esprit. Voilà. Et donc, ça part de là. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu en situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Voilà. Vous voyez, la façon qu'a le pape de nous parler du salut, c'est une manière aussi, en exaltant la miséricorde de Dieu. Hein. Le salut, d'abord, personne n'est exclu de ce projet. Et puis, alors, il reconnaît que peut-être ça peut être, il faut avoir une part de courage pour se lancer dans la foi et peut-être aussi renouveler son acte de foi quand on l'a posé. Une sorte de courage aussi pour, lorsque la routine s'installe, pour pouvoir se remettre dans une relation personnelle avec Dieu, faire ce choix à nouveau. Mais on se découvre toujours attendu si on fait cet effort. Et puis surtout, Dieu nous rétablit toujours. C'est-à-dire qu'on peut placer en lui notre confiance. Et cela nous donne une dignité, c'est-à-dire celle d'être enfant de Dieu, d'homme et de femme capables de se tourner vers lui. Dieu nous permet de relever la tête, de recommencer. C'est justement avec lui qu'on peut faire ce chemin. Voilà. Une tendresse qui ne déçoit jamais et peut toujours nous rendre la joie. Voilà. Alors voilà, on voit que c'est avec cette perspective d'un Dieu miséricordieux qui s'offre à tous, qui relève l'homme, et d'un service de l'homme, avec Paul VI, que nous pouvons entrer dans la perspective de l'évangélisation. Et que, voilà, le motif de la joie, il revient souvent, hein. Voilà, il revient assez fréquemment. Il y a cette perspective d'être toujours dans la joie du Seigneur, parce que le Seigneur est lui-même dans la joie, et fait cela avec joie. On va le voir. J'ai mis un texte de François Varillon, parce que, en fait, dans son livre qui est très connu, là, qui a fait recette, La joie de croire, joie de vivre, alors c'est déjà d'une autre époque, mais il y a encore des choses qui peuvent nous aider encore à comprendre aussi quel est le motif, quel est le salut en fin de compte. Parce que le salut, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'homme qui se laisse diviniser, qui se laisse devenir comme Dieu. C'est bien ce qu'a fait Jésus. Hein. Saint Irénée dit ça, hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Le Christ s'est incarné, le Fils de Dieu, par son humanité, dans son humanité, diffusé dans la divinité, par sa divinité diffusée dans l'humanité, nous divinise, voilà, réellement. Il est venu nous chercher. Et donc, c'est avec ces catégories-là qu'il faut aussi entendre, ça, c'est un peu c'est ce que Irénée décrivait comme l'économie divine. C'est avec cette économie, c'est-à-dire où Dieu voilà, se donne à nous et nous nous donnons à lui, que nous devons annoncer le salut et chercher à le vivre personnellement. Alors pourquoi l'homme est-il divinisable ? Nous dit François Varillon, tout simplement parce qu'il y a un homme qui est Dieu, un homme pleinement homme. L'Évangile et saint Paul nous répètent que le Christ est pleinement homme. C'est vraiment, il y a un membre du genre humain, de l'espèce humaine qui est Dieu. C'est donc qu'il y a dans les hommes une capacité à devenir ce qu'est Dieu. Si un homme est Dieu, c'est que tous peuvent le devenir. Le mystère de tout homme, le sens de l'homme, la signification de la vie humaine, c'est l'aptitude essentielle de l'homme à devenir ce qu'est Dieu. Sans quoi, il faudrait dire que le Christ n'est pas un homme, qu'il est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, un aérolithe, un phénomène tombé du ciel. Mais l'Église s'est battue pendant des siècles pour maintenir à tout prix, envers contre tout, l'humanité de Jésus. Le Christ n'est pas du tout une parenthèse, il est au contraire l'homme en plénitude. Alors c'est sûr que si on veut avoir une bonne image du salut, il faut être bien convaincu de sa réalité et de sa nécessité pour l'homme. Eh bien, il faut avoir aussi une bonne image du Christ. C'est absolument fondamental. Qui, en sa personne, assume deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et c'est vrai que dans notre manière de parler de Jésus, de nous référer à lui, parfois sans le vouloir, nous faisons des petites hérésies. Nous avons parfois des petites manières, des manières de parler de Jésus qui en fait le décrivent un peu autrement et pas selon la foi de l'Église. Ou chercher parfois à vivre des choses dans l'Église qui en fait expliquent que Jésus est autrement, qu'il est soit tout à fait Dieu, soit tout à fait homme, mais qu'il n'est pas vrai Dieu et vrai homme et qu'en sa personne il n'y a pas ces deux réalités-là. Il y a eu beaucoup d'hérésies qui ont, dans les premiers siècles, avant que les credos soient établis, avant les conciles, les premiers conciles œcuméniques de Nicée et de Constantinople, des hérésies, puis ensuite après, qui ont réfuté la divinité de Jésus et qui ont réfuté aussi la divinité de l'Esprit-Saint et d'autres qui ont réfuté aussi son humanité. Voilà. C'est difficile à concevoir, évidemment, parce que c'est une fois qu'on est... si on n'a pas été témoin soi-même, il est assez aisé dans un second temps. Et même Paul, dans ses lettres, parle parfois de personnes qui racontent n'importe quoi sur la foi. Il est facile de se tromper et de dire des choses sur Jésus qui ne sont pas vraies, en fin de compte. Et de voir en lui que son humanité, comme beaucoup de nos contemporains peuvent le faire d'ailleurs. Beaucoup de personnes le font aussi parce qu'ils sont même influencés... parfois par les musulmans, ou peut-être aussi parfois par des chrétiens protestants qui ont une vision un peu, qui ne croient pas vraiment, qui n'exaltent pas la divinité de Jésus. Et ça a tout un tas d'implications, évidemment, pour la vie, les sacrements. C'est sûr qu'évidemment, ça ne sert à rien de parler de la grâce si je ne crois pas que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Si je crois qu'il est simplement un homme, je n'ai pas besoin de parler de la grâce de Dieu. Alors après, qu'est-ce qui sauve si Jésus n'est qu'un homme ? Ça, c'est la grande question qu'on peut poser à ceux qui le disent. Mais il faut avoir en tête quand même le principe même de l'économie divine, parce que Dieu s'est révélé avec amour, a déclaré son amour aux hommes, juste avant que ces bergers n'arrivent à la crèche, pour qu'ils voient finalement un homme, un petit enfant, dans un berceau. Et donc, a priori, on dirait que c'est exactement comme une naissance humaine. Et ça l'est, mais ce n'est pas simplement ça. Et donc, il faut arriver à passer peut-être au-delà des apparences, de ce que notre imagination, notre pensée peut nous emmener pour rentrer dans l'intelligence du dogme, dans l'intelligence de la foi, et croire et porter une foi qui réellement nous sauve. Assume ce salut. Si Jésus n'était qu'une espèce de, je ne sais pas moi, d'esprit non plus, il n'aurait pas assumé notre humanité. Donc sa divinité n'aurait aucune prise sur le péché qui est en elle. Voyez. Donc tout ça se tient. Beaucoup de pères de l'Église ont défendu ça, mais ça a été parfois au prix de leur vie et qui a eu des, voilà, ces conflits-là. Donc il faut, faut entendre tout ça. Et aussi, moi je le dirai après, mais connaître hein, cette histoire du salut, parce qu'elle est longue et parfois tumultueuse, et que ben, voilà, lorsqu'il y a un bien, il est souvent attaqué, et lorsque il y a quelque chose qui représente quand même une forme de défi pour la raison, à plus forte raison s'il s'agit de la vie éternelle, alors il y a beaucoup de chances que beaucoup s'attellent à le changer, le modifier, le rendre plus simple. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est ma petite dernière digression, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être une certaine tendance à minorer la question même du salut. Justement, si on en parle moins, c'est qu'on s'imagine que on fait ce qu'il faut pour être sauvé, quoi. Bon, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut pour être sauvé? Moi, je dis gare, quoi. Enfin, voilà, c'est la question. C'est quand même toute la question que nous nous posons en permanence. Hein. Voilà, et on va en parler. Deux difficultés majeures pour l'annonce aujourd'hui. Une culture de l'absence du tiers qui induit un rapport circonstancié à la parole. Je vais m'expliquer. Il me semble que la grande difficulté, vous voyez, quand on est dans un monde où on essaye d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ aujourd'hui, bah, c'est déjà de faire valoir Dieu lui-même, c'est-à-dire de communiquer, de dialoguer déjà sur une base commune qui est celle de l'idée même de Dieu. Bah, même cette idée-là aujourd'hui n'est pas évidente. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plein de choses, voilà, une modification de l'identité de Jésus. Eh bien, il se trouve aussi que nous avons même des gens qui renoncent à Dieu, voilà, qui n'estiment pas que cette vérité est nécessaire à leur bonheur, à leur épanouissement, hein, parce que l'enjeu, il est toujours là. Le bonheur est devenu une question, je le dis, individuelle. Voilà. La transcendance, un choix individuel et personnel, trop personnel, au sens personnel, au sens individuel. On ne croit pas possible de partager cette aspiration au bonheur avec d'autres. Il ne peut pas y avoir de dénominateur commun, finalement, entre tous nos désirs d'être heureux. Ça n'existe plus, ça ne fonctionne pas. Et dans le monde dans lequel nous vivons, on est angoissé non seulement de pouvoir s'affirmer soi-même, du coup, hein, puisqu'on a perdu un peu ce lien à la transcendance, ben forcément on se débrouille un peu par ses propres moyens. Il y a aussi des influences, d'ailleurs, d'Extrême-Orient ou bien des États-Unis avec toutes ces disciplines aujourd'hui qui vantent le bonheur personnel, l'épanouissement de soi, l'accomplissement de soi. Il suffit d'aller dans les librairies pour s'apercevoir de la multitude des livres qui existent sur le sujet. Mais tout ça se situe du point de vue de l'individu, voilà, du point de vue de la personne. Et donc, on est angoissé, c'est automatique, hein, dès que le bonheur devient quelque chose d'individuel, on va être angoissé de pouvoir s'affirmer soi-même, d'être vraiment soi. Voilà, déjà, ça, c'est la grande chose. Et en fait, mais en plus, de pouvoir prendre une place légitime dans la société. Hein, être soi et prendre une place légitime dans la société. Et parfois, ces deux réalités-là, eh ben, elles entrent en conflit. Hein. Ça peut donner lieu à des choses un peu paradoxales. Hein. Quand je dis la société, c'est aussi sa famille, son groupe social. Voilà. Et donc, et on n'accepte plus de grandir aussi à partir de l'idéal d'un autre. Voilà. On se construit soi-même un chemin qui va mener au bonheur. Et voilà, on n'a jamais eu autant de coachs, autre chose comme ça, de personnes qui nous aident à être bien nous-mêmes, quoi, à notre place, tel qu'on est. Mais bon, à chaque fois, c'est soi. Voilà. Et il est difficile de se référer, alors parfois c'est un peu scientifique, donc il y a quand même un patrimoine commun, une science qui peut aider d'autres personnes, mais c'est juste une aide, et la finalité, c'est quand même soi-même. On ne se reçoit pas fondamentalement dans cette idée du bonheur. Hein. Donc l'idée d'un bonheur qui est vraiment voilà, vécu et dont on est l'artisan, du coup, ben, finalement, voilà, il n'y a plus vraiment de tiers. Quoi, hein. Le tiers, c'est aussi celui auquel on se réfère lorsqu'on est deux, hein, sur lequel on s'appuie lorsque on essaye de trouver une réponse à une question. Voilà. Eh bien, on n'a pas ce tiers nécessairement aujourd'hui. Hein. La réponse, je vais la trouver d'un autre, d'une autre personne qui est semblable à moi-même. Mais je ne vais pas chercher ailleurs que dans quelqu'un qui est un peu comme moi. Voilà. Ça induit une forme d'immédiateté. Vous voyez, la manière qu'on a de communiquer les uns avec les autres. On est dans une époque où il y a beaucoup de... Enfin, les réseaux sociaux, on n'a jamais autant posé de questions à un moteur de recherche sur Internet. Voilà. Parce qu'on se dit qu'en fin de compte, la réponse est là. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher tellement plus loin. Et... voilà. Et tout ça va donc beaucoup plus vite, c'est-à-dire que ça induit un bouleversement aussi de la communication, hein. Changement de notre manière de communiquer. Avant, on prenait le temps, je pense aussi, pour méditer, justement, pour se référer à quelque chose, à des principes, pour chercher ces principes. La culture fondamentale qui était faite de littérature, de philosophie, choses comme ça, en tout cas pour certains, hein. Je ne dis pas qu'il y a eu un âge d'or de la culture, mais... En tout cas, il y avait quand même peut-être davantage qu'aujourd'hui un rapport, une référence à une pensée de sagesse. Hein. C'est ça quand même l'idée. Il en découle peut-être, voilà, du coup, en tout cas, presque une négation hein, du tiers et de l'altérité. Il y a des personnes qui, voilà, tout ce qui est vrai, c'est ce que je perçois par moi-même. Et ce que je perçois par moi-même est vrai. Il n'y a pas de doute possible. Hein, sinon, sans quoi, je ne sais pas gérer mon existence. Et c'est assez étourdissant. Hein, enfin, ça peut devenir absolument étourdissant. Moi, je me souviens, j'étais dans un échange avec une jeune femme qui demandait à baptiser son enfant. Et puis, à un moment donné, on parle des valeurs. Et je dis attention aux valeurs parce que les valeurs, vous les portez toutes seules, donc au bout d'un moment, si vous vous êtes fondé sur des choses que vous portez vous-même, au bout d'un moment, il se peut que vous oubliez un peu, ou vous ne sachiez plus vraiment qui vous êtes, et finalement, ça peut créer des angoisses, des lourdeurs dans votre vie, vous pouvez vous épuiser finalement avec tout ça. Et elle s'est mise presque à pleurer en disant « mais moi, c'est tout ce que j'ai, quoi. Si on m'enlève ça, je ne peux pas avancer ». Et donc, il y avait cette forme d'angoisse à être soi par soi-même, sans immédiateté possible, sans tiers possible, sans altérité. Voilà, donc il en découle à l'échelle de l'humanité une accélération des échanges. Ce n'est pas simplement la technique. La technique accélère les choses, mais elle favorise cette culture, justement. Mais c'est surtout c'est notre mentalité postmoderne qui s'installe petit à petit. Et puis, du coup, ça agit sur la parole, parce que, du coup, les échanges, c'est d'une personne à l'autre, je le disais, plus tellement de verticalité. La parole est moins porteuse de sens, par essence. Hein? Quand je dis quelque chose, ça peut être référé à, justement, une référence culturelle, théologique, philosophique. Voilà. Ça, c'est difficile d'avoir des discussions de ce type aujourd'hui. Entre nous et même au sein de l'Église, c'est pas évident. Voilà. On a du mal avec le langage les idées qui se réfèrent un peu, les idées théologiques, les idées qui se réfèrent à elles-mêmes, les concepts qui se portent aussi, les idées qui s'expliquent elles-mêmes en elles-mêmes. Vous voyez, hein, ce que Benoît XVI appelait le langage auto-référencé, c'est-à-dire il suffit de dire le mot pour que tout d'un coup, il y ait toute une forme de méditation, de lien à l'autre qui vienne se déplacer comme ça, le beau, le bien, le vrai, voilà, tout ce qu'on appelle les transcendentaux. Tout ça n'imprègne plus tellement nos paroles. Hein, et on essaye plutôt d'éviter d'ailleurs, voilà, parce qu'on n'est pas sûr que l'autre nous comprenne bien et qu'on soit bien saisi, qu'on saisisse bien sa parole non plus. Voilà. Donc je le disais, la parole est plus on revendique plutôt l'ego et on décrit moins. Hein. La pauvreté majeure de ça, c'est que la parole sert à la communication, aux échanges entre les personnes, mais moins à la description, c'est-à-dire à la vérité, enfin, dire les choses de manière gratuite, quoi. Hein. Utiliser le langage pour dire des choses de manière gratuite, sans jugement, sans. Ça, c'est difficile. C'est pas facile ce langage-là. Et dès qu'on écrit quelque chose, tout d'un coup, c'est pris comme comme une espèce de volonté de marquer un clivage entre les personnes et tout. Alors que non, voilà, c'est une parole gratuite. Ça s'appelle la sagesse, en fait. Voilà. Mais ça, on refuse un peu. Le bilan que je fais de tout ça, c'est que finalement, l'imagination, parce qu'il s'agit de ça, en fin de compte, le tiers, hein, c'est aussi une partie qu'on laisse... c'est aussi comment dire, une partie qui suggère, qui sollicite un peu notre imagination. Quand on pense à Dieu, bah, on pense à... Tout d'un coup, il y a des images qui viennent en nous, forcément, voilà, nécessairement. Dans la Bible, la question de Dieu, elle est toujours imagée, parce qu'il est irréprésentable. Voilà. Donc pour nous, la catégorie de l'imagination, elle est très importante. Et aujourd'hui, le constat qu'on peut faire... c'est que sans référence au tiers, en fait, cette imagination-là, elle est plus référée à la transcendance, à l'absolu, mais ça devient... elle est utilisée pour autre chose. En fin de compte, je dirais que tout devient assez... Il n'y a plus d'espace d'essai, vous voyez, de réflexion, d'interrogation. Voilà. L'espace d'interrogation en soi-même, il n'existe plus vraiment. Voilà. L'imagination, elle est plus utile forcément pour le langage, parce que encore une fois, c'est très horizontal, et elle est utilisée du coup par d'autres moyens, hein, les médias, les réseaux sociaux, et puis le divertissement, hein, les séries, les films, tout ça, ça nous abreuve énormément. Et je pense que si ça a autant de succès, c'est parce que justement, on n'a plus vraiment l'imaginaire, hein, qui était celui l'imagination qui est travaillée par la foi et qui vient aussi concurrencer et puis donner un autre sens à tout ça, ou relativiser l'absolu que veulent bien nous donner tous ces contenus, en fin de compte, et tous les médias. Voilà. Je suis assez effaré de voir l'effet que peuvent produire les chaînes d'information continue sur la tête des gens, enfin, sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Il n'y a pas d'imagination concurrente qui viendrait leur permettre de relativiser certaines choses, de prendre de la distance. Tout est absorbé. Et la joie au milieu de tout ça, eh bien, elle est plutôt prise comme une forme de distraction un peu positive de l'imagination. Voilà. Par un contenu qui satisfait, c'est-à-dire c'est le jeu, c'est le match de foot, c'est... voilà, on est joyeux comme ça, et ça suffit. Voilà. Alors c'est une joie, c'est une petite joie, hein, voilà. C'est une joie très horizontale. Et quand une information triste arrive, alors du coup, qu'est-ce que font les médias? On ne sait pas trop quoi en faire. Donc il y a toujours un imaginaire de crise, hein, qui prend le relais, avec en particulier les médias, et qui laisse un peu, du coup, un peu impuissant, misérable. On ne sait pas quoi faire parce que justement, tout ça, c'est dans la représentation. Et nous, on est très, très loin de ces choses. Donc voilà. Et si on n'y prend pas garde, si on n'a pas de distance critique, d'intériorité, alors bah, c'est la colère, la fatigue, les angoisses qui prennent le relais. Alors au milieu de tout ça, face à ce constat qui n'est pas très évident, pas très joyeux, je vous le concède, nous avons peut-être deux remèdes. Voilà. Deux remèdes que nous pouvons apporter au monde. Il y a deux attitudes que je retiens, qui sont éduquer et compatir. Deux attitudes humaines qui datent pas du Christ, mais que Jésus revisite pour préparer en chacun un chemin vers son Père. Alors, je dirais compatir, consoler, voilà. Le Christ a eu, en venant dans le monde, au début de son ministère, a déclaré avant même qu'il ne parle complètement lui-même et qu'il ne dise des grands discours, il y a cet épisode de son baptême, hein, dont on peut se rappeler, où on entend la voix du Père qui jaillit et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Voilà, ça fait un peu écho à « Paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Voilà. Eh bien, l'amour du Père, il est dans le Fils, il est en Jésus. Voilà, donc c'est lui qu'il faut regarder d'abord. C'est lui qu'il faut regarder. Et Jésus éduque les personnes qui sont... Enfin, vient comme consolateur à la fois et éducateur de cet amour qui est présent en lui-même, en lui. Voilà. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, on lit ça en Matthieu. Et puis, on a cette visite à la synagogue de Capharnaüm, hein, où Jésus, vous savez, ouvre le livre et choisit le prophète Isaïe, et il lit l'extrait d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, et remettre en liberté les opprimés. » Voilà. Donc Jésus se manifeste comme celui qui vient consoler, compatir à nos difficultés, à nos faiblesses, redonner sens à une vie qui n'en a pas, voilà, ou qui n'en a plus, à cause de la souffrance, à cause du péché, à cause de l'oppression, etc. Donc il se fait, il se manifeste lui-même comme le consolateur, celui qui vient compatir à nos souffrances, voilà, à nos peines. Et puis, non seulement il se déclare comme tel, mais en plus, il choisit d'éduquer ses disciples à reconnaître cela. Et c'est pour ça qu'on peut reconnaître dans la figure du Christ un éducateur. Notamment lorsqu'on lit les paraboles, ou bien les signes qu'on voit dans l'Évangile, n'ont qu'un but, en fin de compte, c'est d'éduquer les disciples. Hein ? Peut-être qu'un passage assez éloquent, c'est la multiplication des pains, où Jésus dit après la multiplication, une fois que les pains ont été multipliés, il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est un geste éducatif, où non seulement la compassion vient à la rencontre des personnes, mais par le biais des disciples qui y sont initiés. C'est aussi Jésus éducateur, on peut le voir aussi de bien des manières, peut-être aussi dans la triple confession de foi de Pierre à la fin de l'évangile de Jean. Voilà, à chaque fois, Jésus dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» Pierre, m'aimes-tu, plusieurs fois, comme pour guérir la triple trahison, voilà, ou pour bien assagir sa confiance en lui, voilà, pour lui faire montrer que, pour le mettre bien, voilà, lui faire prendre une place, un rapport à lui qui soit digne et humble, voilà. Jésus éduque ses disciples. Il y a encore d'autres façons, mais quand on regarde l'évangile de Marc ou l'évangile de Jean, on peut regarder à chaque fois. En fait, les bénéficiaires des signes, à chaque fois, ou des miracles, c'est toujours un peu les disciples qui sont là. Il y a toujours un traitement pour le disciple, en fin de compte. Voilà. Donc Jésus est un éducateur. Et puis, comme je le disais, il défend publiquement sa venue et la venue de son règne. Hein. Il le fait lui-même, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'envoyer ses disciples. Il le fait lui-même, c'est les marchands du temple hein, qu'il chasse, ça c'est en Jean 2. Et puis évidemment l'exemple de ce qu'il dit, hein, le témoignage ultime de ce qu'il évoque, de ce qu'il professe dans la venue du règne, c'est la croix. Voilà. Sur la croix, il porte toute infirmité. Hein. C'est le summum de la compassion pour le monde, hein, de la compassion pour notre péché, nos incapacités, nos enfermements. Et Jésus nous fait, par la croix, entrer dans le règne de Dieu. Il l'assume, il vient donner à notre humanité la capacité de vouloir être sauvé en s'abaissant lui-même jusqu'où le Père veut qu'il aille. Voilà. Ça, c'est la rédemption, le phénomène même de la rédemption. Voilà. Et cette offrande de Jésus dans communiquer à tout l'homme par le mystère de la divinité, de sa divinité, eh bien, nous sauve, vient un peu guérir chacune de nos volontés. Voilà. Vous voyez à la fois sur la croix se conjuguent à la fois toutes les figures de celui qui vient du consolateur et de l'éducateur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Ouais, il n'y a pas plus éloquent, je pense, que ce verset pour évoquer ces deux traits particuliers de Jésus. Nous n'avons pas un grand prêtre, comme dit l'Épître aux Hébreux, incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre, c'est-à-dire celui qui nous introduit dans le sanctuaire de Dieu, éprouvé en toute chose à notre ressemblance, excepté le péché. Voilà, ces deux attitudes du Christ, je pense qu'il faut avoir, les avoir en tête quand on désire, être évangélisateur. Le Seigneur, il a toujours un visage éternel, mais il a aussi un désir de se communiquer aux hommes de notre temps de façon à finalement à d'une façon adaptée, voyez, et ajustée. Dans un monde où la communication, les mots n'ont plus vraiment de sens, où chacun veut leur donner le sens qu'il voudrait, voilà, qu'il désire, où tout va très vite, où on veut absolument être soi-même alors qu'on n'apprend pas à se recevoir de qui que ce soit pour le savoir, donc on veut se donner à soi-même cette réponse-là, le Christ vient relever l'homme de cette incapacité-là en redonnant, en communiquant le sens d'une humanité ouverte. Voilà, ouverte. Alors, l'évangile que j'ai choisi pour essayer de nous faire entendre cette joie du Seigneur qu'il vient donner et qu'il annonce et qu'il vient donner en sa personne, c'est dans l'évangile de Luc. Et il se trouve que c'est précisément l'évangile d'aujourd'hui. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils reviennent de mission. Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voilà. Cette motion de la joie, Jésus qui reçoit vraiment une exultation, une motion intérieure de l'Esprit-Saint qui lui fait exulter parce que la mission fonctionne, parce que désormais, parce que ce qu'il a essayé de transmettre, béni par l'esprit de son Père, agit dans le cœur de ses disciples. Fondamentalement, ce qui provoque la joie du Seigneur, c'est de voir que le message, que justement ce que lui est venu faire, éduquer et compatir pour guérir, désormais est à l'œuvre dans celles et ceux qu'il a envoyés. 72, c'est comme une plénitude. Et c'est la figure peut-être de l'Église, voilà. Mais c'est voilà cette prière de Jésus à son Père. On sent que c'est vraiment tout ce qu'il a voulu faire, voilà. Et ce qui fait aussi, surtout au centre de sa joie, il y a le fait que désormais ceux qui bénéficient de ce salut, ce sont pas les sages et les savants, mais ce sont les tout petits. Dans la mesure où voilà ce royaume est un royaume offert à tous pour qui veut se faire petit, voilà, humble, celui qui veut accueillir, se recevoir de Dieu et qui laisse Dieu à sa juste place. Voilà. C'est l'abaissement même de la croix ici, c'est l'image de l'abaissement de la croix qu'on peut voir en motif, tout correspond. Hein. Mais la bienveillance du Père, pour rentrer dans cet amour et en bénéficier, cet amour qui est promis à tous les hommes, comme proclamé au-dessus de la crèche, c'est un amour qui se révèle aux tout-petits. Voilà. Et c'est la joie de Jésus d'être à son Père, parce qu'il dit ça, tout m'a été remis par mon Père. Et puis, personne ne le connaît, sinon qui est le Fils, sinon le Père. Donc il y a cet amour mutuel qu'il proclame entre les deux. mais qui est appelé à être diffusé à ceux qui le souhaiteront, voilà, ceux à qui le Fils veut le révéler, ceux qui seront dans le mystère de l'intimité de Jésus. Voilà. Alors, il proclame ses disciples bienheureux, comme on est dans l'aboutissement de ce qu'il veut, de ce qu'il tient à faire. À partir de là, on peut en déduire une chose, c'est que la vraie joie réside finalement dans la dépossession de soi-même, hein, pour entrer dans l'offrande de soi-même à Dieu dans le Fils. Ce que nous avons reçu au baptême, ce qui fait notre dignité d'être chrétien, c'est d'être devenu semblable à Jésus, d'être des enfants, les enfants bien-aimés du Père. Voilà. C'est ça qui constitue notre joie. Voilà. C'est d'être regardé, choyé, d'avoir été choisi comme tel, pour faire alliance avec Dieu. Voilà. Et ça, c'est peut-être un des motifs aussi qui doit nous animer lorsque nous cherchons à annoncer le salut, c'est justement cette joie d'avoir été choisi, voilà. D'être choisi par Dieu, d'être voulu comme invité dans l'offrande du Fils au Père, dans l'Esprit. Voilà. C'est là qu'est toute la dignité baptismale, hein. Et c'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, hein. Nous nous offrons au Père dans l'Esprit, par lui, avec lui et en lui, voyez. Et c'est très important d'avoir ça dans le cœur parce que, vous voyez, si on a une mauvaise image de Jésus et qu'on oublie sa divinité, encore une fois, cette dignité baptismale, elle n'existe plus. Elle n'a plus de sens, véritablement. Et donc, c'est ce que nous transmettons, la joie même d'être au Père comme le Fils l'est. C'est accepter, du coup, j'en tire une première conséquence, c'est que faire la joie du Père, c'est accepter de vivre en frère et sœur de Jésus le Christ, la joie d'être membre d'une même famille en quelque sorte. Moi, j'ai toujours été étonné en préparant une adolescente au baptême en aumônerie, quand j'étais aumônier de lycée, je lui explique, tu vas devenir enfant de Dieu, tu vas. Et puis, alors, c'était une jeune fille qui était adoptée, et elle me dit, quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. Et puis elle me dit, oh là là, mais ça veut dire que je vais avoir tout un tas de frères et sœurs. Et je dis, oui. Et tout d'un coup, ça a fait toute sa joie, en fin de compte. Voilà. Et il ne faut pas ignorer l'effet que peut avoir aussi dans notre manière d'annoncer le Christ aux autres, le fait que nous faisions partie d'une famille. Beaucoup cherchent dans leur cœur une famille. Hein, le fait d'être aimé, le fait de d'être reconnu comme membre d'un tout, en fin de compte. On sent, avec notre individualisme latent, là, qui nous fait désespérer de ne pas être nous-mêmes et de ne pas être reconnus. Voyez, la joie, c'est aussi... le salut, c'est annoncer la joie de faire partie de la famille des enfants de Dieu. Voilà. Alors évidemment, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons vivre avec ces liens-là dans l'Église. Ça ne sert à rien de l'annoncer et de le dire si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Voilà, encore une fois, comme le Seigneur, il doit y avoir une correspondance intime entre ce que nous professons, ce que nous annonçons, et ce que notre manière d'agir. Hein, c'est crucial. Hein. On l'a vu que c'est crucial dans la vie de Jésus, mais c'est crucial dans la nôtre également. C'est l'attention à nos rapports de charité les uns avec les autres, d'écoute mutuelle, dans l'Église, comme il est difficile encore de bien s'écouter. Le pape nous invite toujours à bien nous écouter les uns les autres, à faire très attention à ce que l'autre dit, à ne pas se sentir supérieur à l'autre. Voilà. Ces liens de compassion et de pardon et de soin, si nous ne les vivons pas dans l'Église, mais comment voulons-nous que d'autres s'y intéressent ? Comment espérons-nous que d'autres y voient le salut de Dieu que Dieu annonce à tous les hommes ? Ça n'a pas de sens. C'est insensé, c'est vain d'imaginer ça. Voilà. Et si nous ne le faisons pas, en quelque sorte, nous pouvons être comme des menteurs, d'une certaine façon. Hein. Voilà. Jésus, déjà, au milieu des disciples, il y avait cette tentation d'être... Quand on a du mal à être charitable les uns avec les autres, c'est quelque part, il peut y avoir d'autres choses qui germent, c'est-à-dire de la jalousie en fin de compte. Alors c'est cet évangile là que j'aime bien là dans Matthieu 20, 20-28, là, c'est les fils de Zébédée. Hein, et on connaît ça bien. Hein, c'est Madame Zébédée qui vient voir Jésus et qui dit « Mais Seigneur, permets que mes fils, la vraie mère juive, hein, permets que mes fils viennent s'asseoir l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Voilà. Et les disciples sont scandalisés. Alors Jésus dit « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Voilà, les grands de ce monde, eux, font sentir leur pouvoir. » Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Qui veut être le premier sera le dernier. Donc, ça veut dire que dans l'Église, on a une attention particulière à avoir des rapports de charité, mais du coup, des rapports d'humilité et d'écoute mutuelle, hein, pour pouvoir s'écouter mutuellement et compatir nous-mêmes et nous édifier les uns les autres. Faire attention à ce que l'autre dit et dire des choses utiles et vraies. Voilà. Ça, c'est un vrai chemin qui prépare la joie, qui l'amène, voilà, qui permet la confiance et qui équilibre également. Faire la joie du Père, mais c'est aussi, donc ça veut dire être ses enfants, faire la joie du Fils, ensuite, c'est accepter que cette joie qui vient de l'intérieur jaillisse de l'extérieur. C'est avec ma rencontre avec le Seigneur que je suis joyeux, c'est parce que j'ai rencontré Jésus, parce que dans ma vie, on m'a annoncé l'Évangile, que je suis en principe sur un chemin de joie, que je bénéficie de cette joie annoncée par les anges, mais il s'agirait que cette joie soit réelle, en fin de compte. Voilà. Si je veux évangéliser, si je veux être une véritable offrande au Père dans le Fils, il faut que je sois moi-même porteur de cette joie intérieurement pour qu'elle rejaillisse. La vie de mission, c'est finalement aussi intéressant. Ce qui fait d'ailleurs qu'on n'aime pas trop la mission, c'est parce qu'en fait, la mission, ça nous oblige un peu à nous regarder nous-mêmes. Ça nous oblige à nous demander ce qu'on est un peu comme témoin, ce à quoi on ressemble en fin de compte. Qui suis-je comme chrétien ? Ça, il n'y a pas vraiment de gens pour me le dire. Si je vais à la messe tranquillement, peut-être si je suis marié, peut-être qu'il y a des gens qui, et encore entre époux, on parle pas toujours de ça, voilà. Pas toujours. Qui pourra me dire ça, voilà, finalement. Si vous espérez qu'un prêtre aille vous dire ça pendant une confession, vous plantez complètement. C'est pas ça le truc. La confession, c'est pas ce moment-là. Non, le moment où je m'aperçois un peu de l'état de l'amour que j'ai de Dieu dans mon cœur, et parfois on est très surpris, hein, parfois c'est aussi dans ce sens-là, hein, on s'aperçoit, on s'imaginait pas d'avoir autant de ferveur, c'est la mission. Voilà. Alors il est important régulièrement, pour renouveler cette joie, de réécouter ce qui en est à la source, c'est-à-dire le jour où j'ai reçu cette annonce. Alors si nous sommes des chrétiens depuis tout petit, on a reçu cette annonce par nos parents, peut-être, puis ensuite on est allé au caté, etc. Puis après, on a pris notre vie d'adulte dans la paroisse. Bref, il y a une espèce de continuité. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pris le temps, moi, personnellement, parce que c'était le moment de le faire pour moi, et pas pour les autres, pas seulement pour les autres, de réanimer un peu ma foi. C'est-à-dire de réécouter peut-être le kérigme, l'annonce, la proclamation. La première annonce, Jésus est le Fils de Dieu, il est venu dans le monde, il a souffert pour nous, il a annoncé le royaume de Dieu son Père, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté aux cieux et il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est ça l'annonce. Et c'est ça qu'on apporte au monde, mais c'est ça qui rend joyeux d'abord de le savoir, de le porter dans son cœur, d'en vivre pour l'annoncer aux autres, pour ensuite que ça déborde sur nous-mêmes, que ça se voit comme je ne sais pas moi, comme le nez au milieu de la figure, voilà, c'est quelque chose d'évident. Voilà. Et donc, à un moment donné, la joie du Fils, c'est aussi de savoir se laisser transformer, se laisser envoyer soi-même. Voilà. Faire la joie de Jésus, c'est la joie des 72 qui reviennent de mission et ça a fonctionné. Voilà. Et quand je suis dans la joie du Seigneur, je suis dans le salut. Donc si je vais dans l'œuvre de la mission, si je choisis de vivre la mission, je participe à l'œuvre du salut, réellement, concrètement. Hein. Je fais ça, clairement. Alors, je pense que voilà, il y a cet appel, hein, peut-être à se dire bon, alors, il va y avoir de l'évangélisation de rue à la paroisse. On peut peut-être s'y lancer, et se dire bah finalement, allez, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur du regard que le Seigneur porte sur moi parce que c'est un regard de compassion. Maintenant, peut-être le seul regard dont j'aurais peur, c'est le mien. Donc là, après tout, il faut que j'en fasse quelque chose. Mais si j'accepte de me lancer, ben voilà, je participe à l'œuvre du salut. Je suis, d'une certaine façon, là où Dieu veut que je sois, là où Dieu est, là où le Christ est, c'est-à-dire dans le cœur de celles et ceux qui le cherchent. Voilà. Comment moi, j'accepte de me rendre présent à cette offrande. Voilà. Et puis enfin, la joie de l'esprit. Donc la dépossession de soi, voilà, on est toujours dans le même élan de dépossession de soi pour entrer dans l'offrande. Hein. Dépossession parce que j'entre dans une nouvelle famille, dépossession parce que je me laisse envoyer en mission et transformer par ce message, et puis dépossession parce que j'accepte d'aider chacun et d'y entrer moi-même dans un don serein et authentique de moi-même. Voyez, le chemin de la vie chrétienne, c'est un chemin d'offrande de soi complète, totale, entière. Si je prends le temps de regarder ma vie et que je pense qu'il y a des choses de moi qui ne sont pas encore offertes à Dieu, qui ne sont pas encore données aux autres, qui ne sont pas encore à l'extérieur, ben c'est sans doute que le don de moi-même, il n'est pas encore complet. Alors, on a tous du chemin à faire, hein. Mais c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Pourquoi ? Parce que c'est de cette façon-là que l'esprit nous pousse. Alors ça aussi, ça peut être un peu coûteux, mais l'évangélisation nous rend joyeux, en fait, parce qu'elle nous rend témoins du déploiement du salut, je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est accepter déjà de se dire, l'évangélisation me donne, voilà, et me donne de façon authentique, parce que c'est réellement là que Dieu me veut comme baptisé. Alors à moi de trouver peut-être ma manière d'évangéliser. Mais vous savez, même la prière peut être évangélisatrice. La première qui nous rappelle ça, c'est la petite Thérèse, hein, qui est patronne des missions, de la mission universelle, et qui a passé toute sa vie dans un lit. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas la question de se dire « je vais aller par mon et par vos ». Il y a des personnes qui ont envie de ça et qui veulent faire de l'évangélisation. Il y a des personnes qui sont capables d'aller à la rencontre de n'importe qui, et bien qu'ils utilisent ce don pour cela. Mais la question, c'est de savoir quel est le don qui est le mien pour l'annonce. Voilà. Comment moi, à ma manière, je sais, je peux et je suis appelé à participer à l'annonce du salut, parce qu'on a tous quelque chose à voir là-dedans. Tous. Il n'y a pas, on est personne, mais de même que personne ne doit être privé de cette annonce, aucun chrétien n'est exclu de cette mission. Dans notre vie, ce qui concourt aussi à nous donner authentiquement dans la joie de l'esprit, c'est aussi de se dire qu'à chaque fois que j'essaye de mener ma vie comme sous le feu de l'Esprit Saint, donc en mettant toute ma vie sous ce feu-là, eh bien, je rentre dans la joie de l'esprit, j'ouvre ma personne à un don de moi-même. Voilà. C'est la question du discernement moral et spirituel. Hein. Comment est-ce que j'accepte d'avoir aussi une vie spirituelle à proprement parler ? C'est-à-dire que j'accepte que d'écouter, de me mettre à l'écoute dans ma vie et de prendre les moyens de mettre à l'écoute de l'Esprit Saint dans ma vie pour me dire ce que je dois faire et comment prendre ma place comme baptisé. Vous voyez, ça rejoint la question de l'angoisse d'être soi-même et l'angoisse d'être à sa place. Nous, chrétiens, nous avons un cadeau extraordinaire, c'est le discernement spirituel. C'est la capacité d'accueillir en moi l'Esprit de Dieu, de l'écouter pour faire sa volonté. Et je sais que si c'est Dieu qui me parle de cette façon-là, alors parfois ça peut être l'objet de combat d'accepter, mais c'est ce que Dieu veut pour moi et c'est là où je suis. Et c'est ça qui me sort de l'angoisse, du péché, de la fermeture sur moi-même pour m'accomplir totalement et en vérité. Voilà. Et accepter, du coup, vous voyez, c'est l'humilité, le constat d'humilité qui va avec, se dire je ne suis pas complètement accompli non plus. Voilà. Il y a encore des parts de moi-même qui ne sont pas là, quoi, qui ne sont pas au Seigneur. Voilà. Parce que ma vie n'est pas encore unifiée totalement dans le feu de l'Esprit-Saint. Voilà. Le but du discernement spirituel, hein, c'est vraiment nous faire entrer dans la joie d'un don plus grand de nous-mêmes toujours, d'accomplir davantage notre place de baptisé, d'être toujours plus à notre place dans l'Église. Bref, c'est quelque chose qui ouvre, voilà, qui ouvre nos vies. C'est cette vie de discernement, nous pouvons la vivre aussi, ce qui nous ouvre, c'est la prière aussi, c'est la prière, tout simplement. Hein, l'oraison mentale, se poser, se mettre quelques minutes devant le Saint-Sacrement, offrir sa vie à Dieu, hein, s'abandonner à l'amour de Dieu, communier à l'amour de Dieu qui est en moi depuis mon baptême, que j'entretiens avec les sacrements, l'Eucharistie, la confession, pour simplement être au Seigneur et pourquoi pas écouter sa voix, lire l'Écriture, entendre l'Esprit qui parle à ma conscience et en faire quelque chose. Voilà. Mais vraiment, la prière, elle nous met en relation avec le Christ, hein, en direct avec lui. Hein, et il est le salut. Et ça nous fait entrer dans la joie. Voilà. Le bienfait de la prière sont considérables. Hein, c'est le temps qu'on peut passer en oraison, une heure d'oraison, mais ça réénergise une vie entière. C'est fondamental. Et puis, c'est peut-être pour ceux qui entendent cet appel, hein, de voir aussi, parce que ça permet d'offrir le monde. Voilà. Elle procure l'oraison, la prière, la paix du cœur, du corps, de l'esprit. Elle réordonne toutes choses. Voilà. Elle assagit nos passions et calme nos inquiétudes. Voilà, tout ça, c'est, voyez, une vie d'alliance et d'offrande à laquelle il faut soi-même consentir. Et c'est déjà le salut. Voilà. Et si nous vivons, acceptons de vivre ça nous-mêmes, alors nous serons ensuite capables de le donner aux autres. Ça nous paraîtra évident que les autres sont appelés à le vivre, et évident que on peut, avec nos simples moyens, le faire comprendre. Voilà. À partir de là, évangéliser signifie pour nous développer des qualités humaines et spirituelles adaptées à notre époque pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là que, voilà, on va voir aussi ce que ça suppose. Cela passe par la contemplation de Jésus, qui est Dieu dans son humanité, qui éveille, pardonne et guérit. Cela suppose de vouloir devenir des hommes et des femmes formés à la doctrine et sensibilisés aux misères d'autrui. Il faut que moi, je porte ce visage. Si j'accepte de vivre comme ça, il faut que j'adopte le charisme évangélisateur pour notre temps, qui est finalement d'être à la manière de Jésus, quelqu'un de un peu savant, un peu éclairé sur la foi, et capable d'être sensible aux misères des autres. Voilà. C'est l'amour et la vérité, c'est la force et la douceur, c'est ces duels là qu'on met ensemble pour dire à la fois à quoi ressemble la mission. On a autant une personne qui se laisse évangéliser, avec qui on entre en contact, elle a autant besoin d'être enseignée que d'être écoutée. Voilà. Mais il faut savoir faire les deux. Voilà. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voilà. Et donc voilà, une vie offerte, c'est de cette façon, comme je le décrivais, c'est pour laisser un espace d'ouverture qui permet de développer ces capacités-là. Voilà. Et puis ça requiert aussi d'être un peu humble sur soi-même, je le disais, donc requiert d'être présent à nos propres ignorances en matière de foi, nos propres fermetures en matière de justice et de compassion. C'est aussi comme ça qu'il faut, c'est comme ça que la joie ensuite débordera. Voilà. Souvent, ce qui interpelle, je pense, beaucoup les nouveaux convertis, c'est quand ils voient que la personne qui est en face d'eux, justement, n'a pas toutes les réponses. Voilà. Je pense que pour un... Maëlys, tu confirmeras peut-être, mais je pense que pour quelqu'un qui chemine vers le baptême, avoir en face de soi quelqu'un qui à la fois est capable de compassion et d'enseignement, qui sait des choses qui sont cohérentes et qui essaye qui sait en rendre compte dans sa vie, mais qui en même temps est capable de... Voilà, un esprit suffisamment contemplatif et ouvert, qui laisse cette ouverture claire qui est due au mystère de Dieu, à la transcendance dans laquelle nous entrons toujours sous le sceau du mystère, ça c'est assez rassurant. Voilà. Ça donne un sens de Dieu, ça évoque un sens de Dieu qui paraît plausible et du moins acceptable. Voilà. Et donc c'est sûr que si nous ne sommes pas, si nous n'évoquons pas ce sens contemplatif dans notre manière d'être, qui laisse à l'espace de la joie, de la conversion et du discernement, tout en étant encore une fois bien capable de compassion et d'empathie et bien capable de guider par la doctrine, par la connaissance du Seigneur, le kérigme, eh bien, je pense qu'on sera capable beaucoup, de convertir beaucoup de personnes. Voilà. Alors voilà, je terminerai par trois conditions pour transmettre la joie. D'abord, bon, ça, c'est des choses que je pourrais dire à des propédeutes, mais je le dis à vous. Voilà, ça marche pour tout le monde parce que c'est universel. D'abord, rester présent à moi-même pour entrer dans une ferveur fervente contemplation de ce que Dieu fait jour après jour en moi et dans le cosmos. Voilà. Ça peut paraître beaucoup, mais en fin de compte, dans un monde où il y a si peu d'altérité, où tout va très très vite, où il y a beaucoup d'immédiateté, pas de tiers, on laisse beaucoup de côté, on a du mal à être présent à soi. On ne sait même pas ce que ça veut dire d'être présent à soi. Quand on est toujours dans une espèce de consommation effrénée, quand on a toujours une activité à faire après l'autre, on ne s'ennuie plus jamais. On ne supporte pas même l'idée de s'ennuyer parce qu'elle laisse du vide. Et le vide, il peut être rempli justement par l'interrogation, l'introspection, la méditation, etc. Mais pourquoi faire ? Quand on n'a pas de réponse et quand on vit dans un monde horizontal, c'est insupportable. Et donc, nous avons cette mission de vivre une véritable et saine intériorité, d'être présent à nous-mêmes, de me voir, moi, comme un lieu de contemplation, de mémoire, d'action de grâce, de pénitence, de communion, et même, et c'est le pape qui dit ça, d'humiliation devant Dieu. Être capable d'être présent à ce que je suis face à Dieu. Et ça, je ne peux pas, c'est un muscle en quelque sorte, c'est une prise de distance vis-à-vis de moi-même qui ne se bâtit pas en dehors de la prière, et aussi peut-être avec l'aide de personnes qui pourraient m'aider à ça, mais peut-être en faisant une retraite de temps à autre, mais prendre ce temps-là de me dire en fin de compte, il y a quelque chose en moi qui est plus grand que moi, et par ma seule conscience, je ne suis pas capable de le saisir toujours et en direct. Le direct complet, ça sera dans la vie éternelle. Pour l'heure, il faut que j'admette que Dieu soit en train de me dire des choses que je n'entends pas, que je n'entends pas et que je ne comprends pas. Et pour l'heure, c'est l'épreuve de la foi nocturne, qui est une, voilà, qui peut être une épreuve, mais qui est pas sans joie, comme je le disais. Voilà. Et donc, soyez. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, relie bien la joie et la vie dans l'esprit, enfin la présence à soi-même avec l'esprit qui allume notre corps, notre cœur, notre intérieur, un intérieur du coup qu'on peut voir, percevoir. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Voilà. C'est l'esprit qui me rend présent à moi-même, c'est la petite lampe intérieure qui rend tout visible en quelque sorte. Et donc, ça c'est la première chose pour rester dans la joie, c'est consentir à maintenir en moi la présence de Dieu. C'est la question aussi du psychisme comme lieu à laisser ouvert pour que se construise le temple de l'esprit. Jésus est venu en nous, corps et âme. Il avait aussi un psychisme, Jésus. Il avait aussi une psychologie. Nous, c'est pareil. Et donc, il faut accepter que l'Esprit Saint vienne aussi ouvrir en nous, déployer en nous des capacités d'ouverture aux autres. Voilà. Et si on sent en nous-mêmes des difficultés pour ça, il faut se faire aider, quoi. Il faut accepter de se faire aider parce qu'il y a le poids de nos émotions qui s'accumulent avec les années parce qu'on a vécu des traumatismes, des choses douloureuses. Et du coup, ça nous rend un petit peu douloureux aussi avec les autres. Voilà. Ça nous rend angoissés pour des petites choses, alors que d'autres ne le sont pas, par exemple. Bon, tout ça, ça fait partie de la présence à soi et de l'accueil de soi-même avec douceur, avec compassion, mais aussi avec discernement. Et puis enfin, l'étude qui nourrit la contemplation, l'approfondissement de la foi, qui nous permet de toujours avoir une participation toujours plus consciente, active à la rédemption. Je ne peux pas dire que j'entre dans le salut si à un moment donné, je ne prends pas le temps de lire un, je sais pas moi, un extrait du catéchisme, si je ne lis pas la dernière encyclique, si, bref, si je ne cherche pas à actualiser dans mon esprit, et là on parlait d'imagination tout à l'heure, au sens positif avec ces images qui sont en nous, si je ne réévangélise pas mon rapport au monde, à moi-même, au Christ et à l'Église, voilà, par l'imaginaire et qui vient dans lequel puise la raison, la volonté, la mémoire. Et puis la perception de moi-même, du coup, hein. Tout ça, toute l'étude, hein, n'a qu'un but aussi, hein, c'est une meilleure estime de mes capacités à me laisser trouver par Dieu dans son projet d'amour. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que je laisse tomber la possibilité, quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, de préciser des choses. Parce que parfois, le fait de ne pas savoir ou d'avoir une image erronée de Dieu, ça laisse dans la désespérance et puis ça laisse un peu interdit face à la possibilité d'être sauvé. Hein, si je suis pas tout à fait à l'aise avec tel ou tel dogme, comment est-ce que je vais en rendre compte? Voilà, c'est Paul, hein, qui dit, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Voilà. Et donc, si on sort pas aussi, hein, si on a du mal à évangéliser, c'est qu'on n'a peut-être pas, on se sent pas complètement tout terrain, quoi. Je ne me sens pas complètement capable de répondre à toutes les questions qui m'entourent. Là, je ne sais pas trop comment. Bah, en fait, si, mais c'est une question de travailler les choses, quoi. Si on fait du catéchisme avec les enfants, on s'aperçoit que, ouais, bah, c'est bon, ma foi, elle est assez. Elle marche bien. Je suis un chrétien, une chrétienne fervente. Et dès qu'on se retrouve face à un enfant de 7 ans, eh bien, on est justement comme un petit enfant parce qu'on n'a plus les mots pour dire les choses. Et on se dit, mince, j'aurais dû retravailler tout ce que j'avais à dire. Bah oui. Ah oui. Et donc voilà, ça suppose de travailler un peu. Les disciples le faisaient, tous les apôtres le faisaient. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de. Voilà. Et c'est pas aujourd'hui, c'est plus l'apanage des prêtres ou des consacrés. Hein. C'est tout le monde qui doit travailler la foi et se laisser former. Confère l'édito de dimanche prochain. Rester présent donc à soi-même, rester présent au Christ, don de Dieu éternellement vivant pour les siècles, sans lequel je ne peux devenir une vivante offrande à Dieu son Père. C'est parce que j'étais en contact avec Jésus que je peux transmettre la joie. C'est le contact, la proximité immédiate avec le Christ qui fait que je peux le dire aux autres. C'est la seule chose que j'ai à donner. Donc si je ne prie pas, si je laisse pas les sacrements, la charité aussi, mais je parle d'une charité un peu coûteuse, hein, celle que j'ai pas toujours envie d'exercer, mais celle en discernant pour laquelle je vois que le Seigneur m'y appelle, qui me déplace un peu. Là, c'est là qu'est le Seigneur, en fait, hein, et c'est là qu'il faut que je sois. Voilà. Parce que si Jésus est le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme, hein, c'est-à-dire l'un des nôtres. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je me mette au contact, hein, que je garde en moi-même d'abord une image du Christ très proche de moi, très proche de l'homme, et qu'il est présent dans le pauvre, le petit, le malade, le souffrant. Et qu'il est très présent à moi-même dans l'offrande que je peux faire silencieuse de moi-même dans le quotidien de mes journées, et puis à certains moments plus éveillés que d'autres que sont la prière. Voilà. Et donc c'est parce que je suis proche de Jésus, que je médite sur sa vie, que du coup j'ai la joie du Père, puisqu'il est l'accomplissement même de tout. Il n'y a pas d'autre, c'est le point final en fin de compte de tout ce que Dieu a à dire. C'est ça aussi, voilà, être joyeux, c'est avoir la conviction que dans le Christ, tout est donné, tout est dit. Et si, du coup, ça me suffit et je suis arrivé. Voilà. Et alors je suis arrivé au pied du Seigneur, maintenant je dois donner ma vie, c'est un chemin qui s'ouvre pour moi. Mais enfin, la route, elle est là, elle est sûre. Hein. Saint Jean de la Croix disait, certes, la foi, dans la vie de foi, nous avançons de manière nocturne. La connaissance que nous donne la foi est une connaissance nocturne, mais c'est une connaissance qui est certaine, qui est véritable. Voilà. Et donc par la méditation de l'Écriture, la visite au Saint-Sacrement, voilà, la disponibilité, le courage dans le soin des pauvres et des malades, la lecture croyante aussi du journal, voilà, comment je cherche à voir, en lisant l'actualité, le Christ qui est présent, voilà, dans les événements du monde. Pas facile ça, mais quand même. Je peux pas laisser. Il y a rien qui. Le Seigneur, il est là, présent dans le monde, hein, depuis la Pentecôte, et nous sommes dans l'attente de sa venue, dans cette attente où petit à petit, bien voilà, le monde petit à petit le découvre. Alors peut-être qu'il y a des choses qui nous font dire que ça va pas dans le sens ou pas dans l'autre, mais comment j'aiguise mon cœur à lire le journal de manière croyante, vous voyez ? Je peux pas le faire si je connais pas assez Jésus. Voilà. Je peux pas le faire si je ne suis pas assez à son école. Je peux pas le voir, ça. Dans le cri, je ne sais pas moi, d'une personne, d'un peuple, d'un groupe de personnes, dans les revendications de quelqu'un. Voilà. Au-delà de ce que peuvent en dire les médias, comment ça fait son chemin en moi et comment éventuellement aussi ça forge ma prière. Et puis rester présent à l'Église, qui est la véritable maison du Père. Je ne peux trouver la joie du salut pour la transmettre que si je ne viens pas la puiser, ben là où elle est, voilà. Là où elle se diffuse inconditionnellement. Donc je disais, c'est le Christ, mais le Christ, il se donne à moi dans l'Église de façon tout à fait... il y a ma relation subjective à Jésus, avec sa vraie part d'objectivité aussi, parce que l'Esprit agit vraiment. Mais il y a aussi l'objectivité présente ecclésiale de la présence de Jésus dans les sacrements, tel qu'il l'a voulu, et tel qu'on se reçoit, voilà, ça, ma vie dans l'esprit, elle commence avec mon baptême, elle continue dans l'Eucharistie, elle s'accomplit dans l'Eucharistie. Donc comment est-ce que je vis ça aussi, que je viens puiser cette joie, que je reconnais que je ne peux pas me donner à moi-même, hein. Depuis le jour de mon baptême, elle est dans l'Église, et c'est ça qui m'a rendu la vie et la joie, hein. Aller à l'Eucharistie, c'est aussi un acte d'humilité, hein. C'est reconnaître que la vraie joie vient du Seigneur et que je ne la tiens que de lui. Voilà. Et que cette joie-là, elle est vécue, elle est donnée dans son Église. Ça, c'est un tiers, pour le coup. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal aussi à évangéliser, c'est qu'il faut faire entrer à l'intérieur d'une maison et faire entrer dans un lieu objectif où il se passe des choses qui ne m'appartiennent pas, voilà, mais qu'on a reçues par les apôtres, par une tradition, hein, par les âges, à travers les âges. Ça déplace énormément. Ça peut conforter, mais ça peut aussi être source d'inquiétude pour certains. Par les sacrements, la vie fraternelle qui les baigne et qu'ils irriguent. Vous voyez, Paul dit « Soyez dans la joie ». Il faut être dans la joie nous-mêmes, mais il faut accepter que cette joie soit nourrie par la vie même de l'Église. Voilà. Il faut accepter aussi de connaître l'Église, de l'aimer fondamentalement, même si c'est dur, même si c'est pas évident, même si la croix y est présente réellement. Il faut accepter d'avoir vraiment cette connaissance et cet amour de l'Église, parce que le Christ est là, en elle. Voilà. Et de regarder tout ce qui se fait dans une paroisse, l'apprécier. Je dirais que ne pas connaître l'Église, ne pas connaître la vie de l'Église en elle-même aujourd'hui, c'est pas une manière, une bonne façon d'évangéliser. C'est pas une façon d'apporter la joie. Voilà. Ma joie, ça doit aussi être celle de l'Église, d'une certaine façon. Voilà. Et puis de porter avec d'autres les peines, les scandales, les douleurs qui s'y trouvent. Et de faire un chemin aussi avec ces personnes. Voilà, c'est, si on parle de synodalité aujourd'hui, c'est parce que la joie, on la porte ensemble. On n'est pas... Voilà ce qui rend heureux, c'est quand je suis capable de voir que dans l'Église, eh bien, il y a quelque chose qui est ajusté à la vie que Dieu annonce en son Fils Jésus. Ça rend heureux. Voilà. C'est la même joie que Jésus, lorsqu'il voit les 72 revenir, et il voit que les démons sont soumis, les malades sont guéris, que l'Évangile, que le royaume a été proclamé. Je vous remercie de votre attention. Merci.